Vivre ensemble.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Me and You, c'est le podcast du Vivre Ensemble. On y parle des liens que tissent les enfants avec leurs parents, leurs grands-parents, les professionnels de l'enfance et bien plus encore. Comment accompagner les enfants de manière respectueuse et joyeuse? Comment mieux comprendre leur développement et transformer les difficultés qu'on peut rencontrer en opportunités d'apprentissage? Ce podcast a été conçu à deux. Je suis Mélodie Lopez, je suis professeure des écoles, je suis la créatrice de Happy Kids et je suis maman de 5 enfants.
Et moi, je suis Nadège Petrel. Je suis infirmière puéricultrice, professeure de yoga pour enfants et maman de 2 filles. Avec ce podcast, nous avons envie d'éveiller votre curiosité, de vous faire découvrir de nouvelles approches pour vivre avec vos enfants et de vous apporter des informations qui vous seront utiles pour avancer dans votre quotidien. Parce qu'une personne informée est une personne qui a le choix. Alors, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à nous donner un coup de pouce en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et en partageant sur les réseaux sociaux.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la 3e saison du podcast Me and You. Aujourd'hui, nous allons parler de Positive Parenting, d'une approche éducative qui permet de développer les compétences sociales et émotionnelles de toute la famille, qui décode les comportements des enfants qui posent problème et qui permet de fournir les ressources nécessaires aux enfants pour y remédier. Je me souviens qu'en 2010, alors que j'étais enceinte pour la première fois, j'ai acheté en librairie l'ouvrage qui m'a ouvert la voie à une parentalité telle que j'avais envie de l'expérimenter, sans violence et avec un cadre sécurisant. Ce livre, c'est Au cœur des émotions de l'enfant. Je n'imaginais pas à l'époque qu'il allait être rejoint par des dizaines d'autres dans ma bibliothèque de la même autrice que nous sommes très heureuses d'accueillir aujourd'hui dans le podcast, Isabelle Filioza. Isabelle Filioza est psychothérapeute, formatrice, conférencière, autrice de plusieurs dizaines de livres, et s'est donné pour mission de rassembler les informations pertinentes, de les diffuser, d'informer, de nourrir et de développer les intelligences émotionnelles et relationnelles de manière à réduire la violence dans les rapports humains. Son dernier livre, Éduquer, tout ce qu'il faut savoir, ni laxisme, ni violence, les clés de l'éducation positive, sort le 14 mars prochain aux éditions Robert Laffont. Bonjour Isabelle.
Bonjour Mélodie, bonjour Nadège, bonjour à tout le monde qui écoute.
Alors, on est vraiment très heureuse de te recevoir à nouveau dans ce podcast donc pour parler de ton dernier livre. On va rappeler que tu as écrit donc une trentaine de livres à destination des parents.
Un petit peu plus.
Ah oui, ok.
Il paraît que je suis un petit peu plus de 50.
Waouh, d'accord. Alors, moi, j'avais
dit les livres pour enfants.
Ah, c'est ça. Parce que tu vois, moi, j'avais dit une trentaine de livres à destination des parents et puis également une trentaine de livres et de cahiers d'activités pour les enfants de tous les âges pour les aider à développer leur intelligence émotionnelle. Donc, tu vois, on arrive à une soixantaine de livres au final. Et donc, après tout ce travail d'écriture, ben voilà qu'un nouveau livre paraît ce mois-ci. Donc, Éduquer tout ce qu'il faut savoir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur celui-ci, sa genèse et ce qu'il contient?
Oui, eh bien toute l'année dernière, j'ai entendu énormément de choses dites sur la parentalité positive. Presque tous les journaux se sont emparés d'un débat sur l'éducation et j'ai vu tellement de choses erronées dites que je me suis dit, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer de laisser dire tout ça, soi-disant la parentalité positive laisserait tout faire aux enfants, qu'on ne pourrait jamais dire non, que si on disait non ou on fronçait les sourcils, ça risquait de traumatiser, d'abîmer le cerveau à vie, enfin, toutes sortes d'excès qui étaient tellement faux. Et donc, je me suis dit, je vais rassembler un peu finalement tout ce que j'ai égrené dans mes différents livres tout au long de mon parcours et toutes ces informations sur le stress, sur la punition, sur la connexion à l'enfant, sur l'attachement, toutes les informations qui me semblaient pertinentes, je les ai rassemblées dans ce livre qui est assez gros hein, puisqu'il y a plus de 380 pages, mais c'est vraiment un argumentaire pour que chacun puisse comprendre plus en profondeur pourquoi c'est dommage de rentrer dans un rapport de force et pourquoi on a tout intérêt à jouer la connexion à l'enfant, la relation, toujours la relation en premier.
Et c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé et qui allaient effectivement un peu dans tous les sens.
C'est-à-dire que ce n'est même pas des informations, c'était de la désinformation qui a circulé. Si c'était de l'information, tout irait bien.
Oui,
et disons que... Mais ça avait la couleur de l'information, la forme d'information, mais non, et c'était dit... avec beaucoup d'excès, souvent, parce que c'était vraiment, ça se positionnait très souvent comme étant des attaques, hein, donc ce n'était pas des informations réellement. Mais c'est vrai que quand même, ce n'est pas facile pour les parents, pour les éducateurs, de se retrouver dans cette jungle de tout ce qui est asséné. Et quelquefois, des choses sont dites et sont dites, « Ah, mais ils ont raison, c'est vrai !» Et on y croit, on y adhère, si on n'a pas un argumentaire à côté qui explique et qui décode les choses.
C'est ça, c'est qu'en fait, d'un point de vue des parents, c'était compliqué de s'y retrouver. Et je pense que c'est aussi en ce sens que ce nouvel ouvrage va pouvoir nous éclairer, justement, sur les informations en lien avec le développement de l'enfant. Comment est-ce qu'on peut expliquer justement qu'en 2024, en France, il y ait quand même, malgré toutes les connaissances qu'on a, qui sont quand même de plus en plus étoffées sur le développement de l'enfant, comment est-ce que ça se fait que la punition tienne encore une si grande place dans l'éducation et dans ce qui peut être justement véhiculé par les médias et qui pourrait presque être, perçu ou donné presque comme étant encore la norme éducative pour les enfants.
C'est tout à fait ça, Nadège. C'est encore la norme pour 80% des Français. L'Observatoire des violences a pu le montrer et mesurer que majoritairement, les Français sont dans une éducation extrêmement autoritaire et dans un rapport de pouvoir quasi systématique. L'enfant français est censé devoir obéir et du coup, on doit le contraindre, on se bagarre contre lui et on interprète tous ses comportements comme étant des fautes sous sa responsabilité et donc on le contraint à modifier son comportement et à s'adapter, à se conformer. On attend de lui qu'il se conforme. On oublie qu'il est un être de droit, même si on a signé la Convention internationale des droits de l'enfant, on a fait même plus que la signer, on s'est vraiment engagé à respecter cette Convention internationale des droits de l'enfant, eh bien, il semblerait qu'on ne mesure pas tout à fait toujours ce que ça signifie sur le terrain. Parce que cette Convention internationale des droits de l'enfant, elle interdit déjà depuis très longtemps d'enfermer un enfant, lui parler mal, de crier dessus, de le frapper. Elle interdit toute violence, même la plus ténue, parce que c'est un système en fait, c'est une dynamique. Alors c'est vrai que c'est très surprenant, on croit, de voir ça en France, de voir cet autoritarisme en France, toujours assorti d'un discours qui maintient l'autoritarisme, un discours qui dit « Ah, mais si on laisse les enfants tout faire, si on est permissif, l'éducation positive, alors ça veut dire qu'on fait rien et on laisse les enfants devenir des enfants rois. » Donc, toutes ces craintes sont alimentées en permanence et du coup, les parents français s'arc-boutent sur les automatismes, sur ce qu'ils ont vécu, sur ce qu'ils ont toujours connu, c'est-à-dire l'autorité du parent sur l'enfant pour le contraindre à obéir, pour le contraindre à aller dans le sens que le parent a décidé qui était important. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de mauvaises conceptions autour de tout ça. Pour quelles raisons est-ce qu'on est encore là-dedans? Eh bien, je pense que les raisons sont extrêmement multiples. Il reste que dans notre pays, la plupart des experts sont des psys qui ont été formés, même toute la petite enfance a été beaucoup formée, voire formatée par le discours de la psychanalyse. Et ce discours de la psychanalyse, il dit que l'enfant est un être qui naît avec des pulsions sexuelles, des pulsions agressives, et donc, dans leur modèle, il est tout naturel qu'il soit nécessaire sans cesse de lui poser des limites, poser des limites, poser des limites, de manière à ce qu'il réprime et ses pulsions et qu'il puisse devenir un adulte qui est bien dans la société. Mais bon, aujourd'hui, cette théorie psychanalytique, elle est abandonnée dans la plupart des pays du monde. Et nous, on s'arc-boute dessus parce que c'est très répandu chez nous, ça continue d'être enseigné à l'université. Et la plupart des Français y croient encore. Mais la science nous dit « Ah non, pas du tout, l'enfant ne vient pas au monde avec des pulsions sexuelles polymorphes, il vient avec des besoins, il vient avec des capacités innées d'empathie, des capacités innées de tisser du lien, de chercher le lien et des capacités innées d'attachement. » Et donc c'est vraiment tout un monde différent, tout un modèle du monde qui est complètement opposé même. Donc, c'est pas facile de passer d'un paradigme à l'autre. Et moi, personnellement, j'interprète cette crispation aujourd'hui sur, sur l'éducation comme étant finalement la dernière crispation avant un changement plus en profondeur. On ne pouvait pas espérer passer d'un paradigme très autoritaire à un paradigme empathique comme ça en un instant. Ça demande toute une remise en cause de chacun. Ça demande beaucoup d'informations. Ça demande beaucoup de notions, beaucoup de compréhension. Et du coup, nous avions besoin de lancer ce débat. Alors, c'est vrai que j'ai peu été présente dans ce débat. D'une part, parce que la plupart du temps, souvent au début, c'était des attaques personnelles et je ne voulais pas répondre à des attaques personnelles. Et d'autre part, ensuite, ma mère, c'était la fin de vie de ma mère qui a duré quelques mois et donc j'ai accompagné ma mère. Et donc, du coup, je me suis retenue, j'étais occupée à d'autres choses et c'est pour ça que j'ai tardé un peu à publier ce livre qui rectifie les choses, qui clarifie. Mais voilà, la raison pour laquelle on en est encore là, je ne sais pas exactement, mais voilà, c'est une bonne nouvelle, on en parle aujourd'hui, on va pouvoir dénoncer, et finalement, toutes ces attaques m'ont permis de rassembler dans ce livre les idées fondamentales qui peuvent étayer ce qu'on appelle la parentalité positive, mais qui est finalement la parentalité tout court. En fait, j'aspire à ce qu'on n'ait plus besoin de dire parentalité positive. On a encore besoin de le dire parce qu'on l'oppose encore à une autre type de parentalité qu'on croit pouvoir continuer. Mais voilà, dans la plupart des pays du monde, on n'a pas besoin de parler de positive parenting. Positive parenting, c'est un terme qui est utilisé dans la science, mais ce n'est pas forcément un terme dont les parents ont besoin. Ils ont besoin d'avoir une méthode de parentalité. Ce n'est même pas une méthode, d'ailleurs. C'est quelle attitude tout parent peut avoir pour respecter les droits de son enfant et ses droits à lui.
Et là, on voit que tu as transformé une situation qui était inconfortable, enfin, tous ces débats, entre guillemets, et ces polémiques autour de cette parentalité que tu décris. On voit que tu le transformes en quelque chose de positif pour informer davantage, fournir davantage de ressources. Et ça me fait penser vraiment à ce que tu défends depuis de nombreuses années dans la parentalité même, où tu dis que quand il y a, par exemple, un conflit entre enfants, on va utiliser ce conflit-là pour enseigner des compétences, par exemple, pour leur permettre de réguler leur stress ou exprimer davantage ce qu'ils ressentent, etc. Donc, on voit que c'est cohérent avec ce que tu défends depuis de nombreuses années. Et du coup, pour continuer à informer, comme ça, on va essayer de casser des idées reçues qu'il peut y avoir. Et une des grosses idées reçues de, entre guillemets, la parentalité positive, c'est tout ce qui gravite autour de la frustration, puisqu'on entend souvent que ce type d'éducation rend les enfants incapables de gérer la frustration. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, au contraire, ce parentage, si on traduit littéralement de l'anglais parenting, fournit aux enfants les ressources nécessaires.
Ah, oui, tout à fait. C'est très stupéfiant d'entendre autant de commentaires disant que, soi-disant, la parentalité positive ne permettrait pas aux enfants de réguler leur frustration, parce que c'est exactement le contraire. En fait, ce sont les parents d'enfants autoritaires qui régulent très, très mal leur frustration. Une étude de Walter Michel a fait date dans le monde entier. Cette étude, connue sous le nom d'étude du marshmallow, du chamallow, donc, consiste à, on met devant un enfant une confiserie devant l'enfant sur une petite assiette. Et donc, on lui dit, voilà, tu as un chamallow devant toi, tu as une sonnette ici, je vais sortir de la pièce et si quand je reviens, il y a encore le chamallow dans l'assiette, si tu n'y as pas touché, alors tu auras droit à un deuxième chamallow, donc tu en auras deux. Tu as cette sonnette, si jamais tu craques, vraiment c'est trop dur pour toi, tu peux m'appeler et je reviens. Et donc, on fait passer ce test qui mesure la capacité de tolérance à la frustration. Puisque l'enfant est face à un bonbon, il en a envie et il a très envie aussi de résister à la tentation pour pouvoir obtenir un deuxième bonbon. Hein, parce que quand on demande aux enfants, alors tu veux un bonbon ou bien deux bonbons, 100% des enfants disent je veux deux bonbons. Donc il y a eu des centaines et des centaines d'enfants qui ont passé ce test. Et on s'est rendu compte déjà qu'avant l'âge de 3 ans, aucun enfant ne réussissait à ne pas toucher au chamallow. Ça veut dire que avant l'âge de 3 ans, il n'y a pas les compétences du cerveau préfrontal qui permettent d'inhiber les impulsions à agir et donc l'enfant n'y arrive tout simplement pas. À partir de l'âge de 3 ans, eh bien c'est contrasté. Il y en a qui y arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas. Et on s'est rendu compte, parce que cette étude a eu lieu il y a plus de 40 ans, on s'est rendu compte que dans le futur, ensuite, les enfants qui avaient bien réussi à réguler leur frustration, à ne pas manger ce petit chamallow, eh bien, ils avaient de meilleurs résultats scolaires, mais après, ils avaient fait de meilleures études supérieures, ils avaient un meilleur métier, ils étaient plus minces, c'est-à-dire qu'ils arrivaient aussi à résister aux tentations des boulangeries et pâtisseries diverses et variées. Ils avaient une meilleure stabilité dans le couple, une meilleure santé globale, une meilleure santé physique, émotionnelle et sociale. Waouh ! Du coup, tout le monde s'est emparé de cette étude en disant « Ben, vous voyez comme il est nécessaire d'enseigner la frustration aux enfants. » Donc, ce qui est drôle, c'est qu'en France, ce sont les autoritaires qui se sont emparés de l'étude, les premiers. Parce qu'enseigner la frustration, ça leur plaisait. Mais ils n'ont pas bien lu l'étude que j'ai fait republier en français en totalité. Et donc, cette étude, elle analyse comment, qui sont les enfants qui réussissent ? Eh bien, les enfants qui réussissent le mieux à tolérer la frustration sont ceux qui bénéficient de l'attachement le plus sécur. C'est d'abord ça qui permet à un enfant d'être sûr. « Ah, je peux faire confiance à cet adulte, il ne va pas me manipuler, il ne va pas me… » Non, je lui fais confiance parce que je sais que quand je fais confiance à un adulte, eh bien, ma confiance est récompensée, donc il a confiance dans le fait qu'il va réellement avoir un deuxième chamallow. Et donc, les parents d'enfants, quand les enfants de parents les plus chaleureux, compréhensifs, aidants, soutenants, accompagnants, avaient les meilleurs résultats. Les enfants qui avaient des parents qui étaient un peu « tu fais ce que je dis », et qui étaient donc soumis parfois à l'arbitraire des parents, ceux-là, puisque les parents c'est arbitraire, je ne sais pas trop ce qui va me tomber dessus, et donc autant manger ce chamallow-là, c'était finalement une stratégie tout à fait opérationnelle. Donc quand on a des parents qu'on ne peut pas prédire, eh bien on va plutôt choisir de manger le chamallow. Donc cette histoire raconte quand même, cette expérience raconte toute une autre histoire que l'apprentissage de la frustration. Ensuite, Walter Michel s'est intéressé à comprendre un peu mieux, mais ils font comment ceux qui réussissent? Et il s'est rendu compte que ceux qui réussissent, eh bien, ils ont des stratégies. Et leurs stratégies sont efficaces. Une stratégie, par exemple, qu'a raconté un enfant, c'est, eh bien, quand je regarde le chamallow, j'imagine que c'est une boule de coton. Et une boule de coton, ça ne se mange pas, alors c'est facile d'attendre. Bon. Un autre visualisait le chamallow dans un cadre. Il dit, je vois un cadre autour, donc c'est un tableau. Et puisque c'est un tableau, ça ne se mange pas, c'est facile d'attendre. Alors, ébloui, Walter Michel s'est dit, mais qu'est-ce qui se passerait si je fournissais cette technique à un enfant de moins de 3 ans? Les enfants de 3 ans, de moins de 3 ans, on se rappelle, hein, ils n'arrivent jamais à attendre. Alors évidemment, il n'a pas donné la technique à des enfants de 2 ans, mais des enfants de 3 ans moins le quart, quoi, juste un petit peu avant 3 ans, qui donc normalement n'y parviennent pas. Mais il leur a dit, voilà, regarde bien ce bonbon, c'est un bonbon, mais tu peux le voir aussi comme une boule de coton. Imagine que c'est une boule de coton. Je sors et quand je reviendrai, tu auras 2 si jamais il y en a. Il y en a encore 1 si tu ne l'as pas mangé. Et là, stupéfaction, les enfants de moins de 3 ans se sont révélés capables d'attendre jusqu'à 17 minutes. 17 minutes, mais les parents sont éblouis en entendant ça. Donc là, ça montre bien que un enfant, il peut tolérer la frustration quand, d'une part, il a un attachement solide et on lui a appris à réguler ses émotions, et d'autre part, quand il a une stratégie. Et donc, quand on apprend ça, ben, la parentalité positive, pourquoi ça s'appelle parentalité positive ? C'est positif parce que ça permet de résoudre les problèmes, que ça permet à l'enfant de se développer, ça permet à l'enfant de grandir dans toutes ses compétences. Donc forcément, les expériences de Walter Michel rendent et nourrissent la parentalité positive. Du coup, ben, on a cette expérience scientifique, on va appliquer ça. Et dans la parentalité, on va enseigner aux parents à, d'une part, fournir l'attachement et la sécurité systématiquement. Si je veux qu'un enfant attende son tour à la balançoire ou qu'il n'attaque pas son frère qui est en train de monter sur le vélo à sa place, eh bien, j'ai d'une part à remplir son réservoir d'amour pour qu'il sente l'attachement, qu'il sente la sécurité. Si, d'abord, avec cette base de sécurité, ensuite, je fournis les règles, comme dans l'histoire du chamallow. Et donc, la règle là, c'est ton frère, c'est le tour de ton frère pour l'instant d'être sur la balançoire ou sur le vélo. Et donc, toi, ton tour, il est juste après. Ou alors, il y a d'abord le tour de Max, ensuite le tour de Léa, ensuite c'est ton tour. Donc, on lui donne le cadre et après ça, ben, on va lui fournir une ressource. Parce que c'est bien joli de donner un impératif à l'enfant. Et lui dire, tu attends ton tour. Mais s'il ne sait pas attendre son tour, s'il a moins de 3 ans, il ne sait pas du tout. S'il a un peu plus de 3 ans, peut-être qu'il le sait, mais peut-être qu'il n'a pas encore rencontré les expériences qui lui permettent de savoir comment on fait. Donc, on va lui permettre de, ben, peut-être d'en aller élaborer une. Donc, on va peut-être lui demander, plutôt que simplement lui dire de manière autoritaire, tu attends ton tour, sinon je te punis. On va plutôt faire, alors, voilà, ton tour, c'est dans quelques minutes, et donc c'est une fois que ton frère aura terminé. Du coup, comment vas-tu faire pour attendre ton tour? Et là, l'enfant va réfléchir et il va produire des idées. On va, selon son âge, attendre qu'il ait donné au moins 3 idées différentes, peut-être 4 ou 5. Plus il a d'idées différentes, plus il a le choix. Une fois qu'il nous a fourni 3-4 idées, dire ben, laquelle tu veux choisir pour aujourd'hui? Du coup, l'enfant choisit une des idées et il est tout content de mettre en œuvre son idée. Parce que ça aussi, c'est une des leçons de Walter Michel, hein, de l'expérience de Walter Michel, une leçon qui va à l'encontre de ce que disent les psychanalystes, parce que les psychanalystes disent que l'enfant, si on le laisse sans limite, va forcément vouloir toujours davantage et être ivre de sa toute-puissance. Il veut toujours plus, il veut toujours davantage. Et donc, selon un psychanalyste, l'enfant va toujours vouloir manger absolument le chamallow. Or, Walter Michel a été très surpris avec son équipe de voir que les enfants, quand ils gagnaient le deuxième chamallow, ils avaient les deux chamallows, et bien ils ne les mangeaient pas. Très souvent, ils les prenaient avec précaution, éblouissement, ils les mettaient dans leur poche pour pouvoir les montrer à leurs parents. Parce que la fierté d'avoir réussi à vaincre la tentation était bien plus forte que le désir du petit bonbon. Donc, ça n'est pas vrai que les enfants ont des désirs qui vont envahir tout l'espace. Non, un enfant, son désir premier, c'est d'être grand, de montrer à ses parents qu'il est réussi, qu'il est capable, qu'il a plein de compétences. Il aime se sentir fort. Et voilà, je répète souvent qu'il y a deux grands besoins chez un enfant, chez tout humain d'ailleurs. C'est le besoin de connexion et le besoin de pouvoir personnel, sentir sa force, sentir ben, qui on est, qui je suis en tant qu'individu, comment je fais une différence. Donc, le lien et comment je fais une différence. Et donc, le bonbon, il a très, très peu d'importance par rapport à ces enjeux-là. Donc, voilà. En fait, la parentalité positive, c'est oui, on enseigne les stratégies pour réguler la frustration. Et quand l'enfant explose, on ne se contente pas de croiser les bras et d'attendre qu'il ait fini. On va vraiment accompagner ça. On va lui enseigner à réguler ses émotions. On ne va pas dire non en fronçant les sourcils brutalement à un enfant de moins de 2 ans. Ça n'a pas de sens. Parce que immédiatement, on stimule son circuit de stress. Ça ne veut pas dire qu'on va rien lui refuser. Bien au contraire, on va très souvent refuser des choses. C'est la façon de refuser. On va refuser en accompagnant. Parce que ce qu'on veut, c'est muscler les capacités de régulation émotionnelle de l'enfant, muscler ses capacités de tolérance à la frustration. Donc finalement, en disant stop plutôt que non, on va davantage permettre à l'enfant de construire ses capacités d'inhibition. Parce que cette histoire de, soi-disant, la parentalité positive serait toute tolérante. Vous me connaissez, je ne suis pas très tolérante et je dis souvent que ce qui est très important, c'est avec un enfant, zéro tolérance. Pour moi, dès qu'on est tolérant, alors bien sûr, quand je dis ça, c'est clair que si c'est un comportement de son âge, évidemment que je suis tolérant. Un nourrisson qui pleure, je tolère, pas trop quand même, hein, parce que tolérer, ça veut dire que j'accepte qu'il continue ce comportement-là. Mais ce comportement, s'il n'est pas approprié, s'il dit une blessure, s'il dit « ça va pas », eh bien, le tolérer, ça veut dire laisser l'enfant ne pas avec lui-même, quoi, le laisser l'abandonner finalement à ses difficultés. À partir du moment où il y a un comportement débordant, où il y a un comportement qui n'est pas le comportement attendu, c'est que l'enfant est en train de me donner un message. Ça n'est pas qu'il construit un message, il ne fait pas exprès d'avoir des comportements débordants, mais ça veut dire qu'il est soit sous stress, soit il n'a pas pigé un truc, soit il lui manque une méthode. En tout cas, il a besoin de moi. Donc, dès que je vois l'enfant débordé, demander systématiquement un truc, non, zéro tolérance. J'interviens tout de suite. Mais au lieu de dire « Non, je te punis, va dans ta chambre », je vais plutôt dire « Stop, qu'est-ce qui se passe là ?» Et on va s'intéresser à ce que vit l'enfant. On va s'interposer. J'aime mieux le terme de « interposer » une limite, c'est-à-dire que quand l'enfant déborde, je ne peux pas juste le laisser taper son frère, par exemple. Je m'interpose immédiatement. Je m'interpose et là, il fait une crise parce que je me suis interposée. J'écoute la crise, j'accompagne la crise et je vois ce qu'il y a dessous. J'écoute ce qu'il y a dessous. Je vois que c'est vraiment dur pour toi. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais que ça n'a rien à voir avec ton frère. Je pense que ça a plutôt à voir peut-être avec ce que tu as vécu à l'école ou avec le fait qu'on est en train de divorcer, qu'on vient de dire que ta grand-mère est décédée. Bref, il y a quelque chose dans son cœur qui ne va pas bien. Et c'est à ça que nous sommes attentifs. Et du voilà, coup, une très longue réponse, hein, t'es
sûr ? Oui, mais c'est une réponse complète avec des exemples. Et du coup, ça permet aussi de mieux comprendre et pas de se contenter, entre guillemets, de théorie. Parce que des fois aussi, c'est ça qui est difficile quand on est là en tant que parent et on se dit « Ok, on nous dit que ça, il faut le faire ou ça, pas le faire, mais concrètement, on fait comment ?» Et là, c'est ce qui est génial, en fait, avec tes explications, c'est que justement, c'est très imagé. Tu pars de deux situations du quotidien où on se projette très facilement en tant que parent. Et au fur et à mesure que je t'écoute, je me dis qu'au final, parfois, ce qui est difficile à trouver, finalement, en tant que parent, c'est cette posture à avoir auprès de notre enfant pour l'accompagner au mieux, avec malgré tout, tu vois, justement, ce qu'on disait en début d'épisode, c'est tout ce qu'on a entendu pendant toutes ces années, cette vision de l'enfant que tu décrivais de par la psychanalyse, etc. Donc, d'après toi, de quoi est-ce que les parents, aujourd'hui, en 2024, ils pourraient avoir besoin pour justement pouvoir se positionner, adopter justement cette posture d'accompagnant pour aider les enfants à se développer à la fois au mieux, mais au final, en ayant cette relation parent-enfant qui soit en connexion, qui soit respectueuse, comme tu le disais, des droits de l'enfant, etc. De quoi est-ce que, en 2024, de quoi est-ce que les parents manquent aujourd'hui pour arriver à switcher, tu vois, parce qu'on parlait des deux paradigmes, mais qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui ou de quoi est-ce qu'ils auraient besoin, en tout cas, pour justement avancer dans cette parentalité démocratique ?
Eh bien, pouvoir bénéficier eux-mêmes de cette parentalité. Alors déjà, une petite parenthèse, parce que le pouvoir de l'adulte sur l'enfant, ça ne date pas de la psychanalyse, bien sûr. Hein. Juste, je disais ça tout à l'heure uniquement pour montrer pourquoi en France, on est encore accroché à ça par rapport à d'autres pays qui ont progressé. Mais sinon, ce qui est compliqué, c'est que comme nous avons été élevés dans cette dynamique de parentalité autoritaire, nous avons subi ça et c'est ce qui nous vient le plus facilement. On a tendance à reproduire, même si de plus en plus des parents se disent « mais non, je ne veux pas reproduire ». Donc, c'est de plus en plus facile quand on a soi-même pu apprendre à réguler ses émotions. Alors, de quoi on a besoin ? Pour pouvoir shifter, pour pouvoir passer d'un paradigme à un autre, déjà la première chose, c'est comprendre que c'est tout le paradigme qui est à rejeter. C'est-à-dire, c'est vraiment, ça n'est pas seulement comment je fais au lieu de punir, comment je fais pour réguler tel comportement, comment je fais pour qu'il obéisse. Ça n'est pas faire du comportementalisme, c'est-à-dire chercher à ajuster de manière plus gentille la parentalité, c'est vraiment changer de paradigme, c'est regarder l'enfant différemment. Et pour ça, eh bien, on a besoin aussi de nous-mêmes nous regarder différemment. Et je dirais la première chose dont un parent a besoin, c'est de l'autocompassion. Plus de compassion envers lui-même. C'est vrai que c'est dur, et c'est plus dur aujourd'hui d'élever un enfant que ça n'était à la génération précédente. C'est plus dur pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'on est bien davantage tout seul. C'est la norme aujourd'hui, c'est dans un petit appartement, deux parents ou même un seul parent avec un ou deux ou trois enfants. C'est trop difficile. On a besoin de vivre en tribu, en groupe. Un enfant, il a besoin de plusieurs adultes et de plusieurs enfants autour de lui. Sinon, c'est juste épuisant. C'est épuisant d'être seul avec un enfant et c'est épuisant pour l'enfant d'être tout le temps avec le même adulte. Quand on est tout le temps avec le même adulte, on finit par disjoncter. Évidemment qu'on lui demande toujours à lui tout. Et du coup, on s'énerve mutuellement. Donc, on aurait vraiment intérêt, d'abord autocompassion, dire c'est naturel que j'y arrive pas parce que c'est mission impossible, et deuxièmement me relier. C'est pour ça que à la commission des 1000 premiers jours, j'ai tellement insisté pour les maisons des 1000 jours qui sont un endroit où on peut se connecter avec d'autres parents. L'expérience qu'apportait Nathalie Cassovicarini sur ce qu'elle a vécu en Australie est passionnante. Les groupes de parents, dès qu'une maman est enceinte, immédiatement le couple parental est en relation avec un groupe qu'il va retrouver une fois par semaine pendant un an. Et du coup, ben, ce groupe de parents, d'enfants donc nés à peu près au même moment, va être un soutien, une aide. On a absolument besoin de pouvoir partager nos émotions, de pouvoir dire, se plaindre, dire combien c'est dur, et de recevoir des ressources, de savoir, de s'étayer, de s'entraider les uns les autres, hein, d'avoir des trucs, des astuces, voir comment les autres s'y prennent, apprendre. Donc, à la fois être soutenu davantage et apprendre un petit peu plus. Et puis, bien sûr, on a besoin de comprendre mieux le développement du cerveau d'un enfant. On a besoin de beaucoup d'informations. Et dans les maisons des 1000 jours, c'est aussi ça l'idée, c'est de pouvoir trouver des informations fiables. Parce que ce n'est pas si simple aujourd'hui de trouver des informations fiables, scientifiquement étayées, puisqu'on a bien vu l'année dernière comment toutes sortes de désinformations peuvent encore envahir la toile et les médias.
Oui, et ça, je le vois au quotidien, tu vois, pour accompagner les parents et animer des ateliers papotage avec des groupes de parents, c'est surtout des mamans qui viennent avec leurs enfants. C'est vraiment ce qu'elles verbalisent et elles expriment qu'elles ont ce besoin-là. Juste déjà de se sentir comprise et de voir que les difficultés qu'elles rencontrent, finalement, les autres mamans du village rencontrent exactement les mêmes difficultés et que finalement, c'est pas une incompétence de leur part, c'est juste, voilà, ça fait partie du développement de l'enfant. Et donc, on peut réfléchir ensemble à des petites choses à mettre en place à la maison pour justement changer de regard sur ces comportements d'enfants. Et souvent, ce qui est partagé aussi, c'est le regard extérieur de la société, que ce soit lorsqu'elles sortent au parc et les jugements qui peuvent être émis. Par exemple, si l'enfant grimpe le toboggan à l'envers, il va y avoir des jugements comme quoi, oulala, cette maman n'a pas d'autorité sur son enfant parce qu'elle le laisse escalader le toboggan à l'envers. Et donc, ça ouvre la discussion sur, ben, finalement, pourquoi l'enfant monte le toboggan à l'envers. Peut-être qu'il développe des compétences motrices, et puis, pourquoi pas. Et le fait de savoir tout ça, et de le faire dans un cadre sécurisé, elles se sentent ensuite plus confiantes en leurs compétences, et comme elles se sentent plus confiantes, elles sont plus sereines, et finalement, ça fait un cercle vertueux après au sein de la famille. Donc, il y a vraiment ce besoin, oui, d'être ensemble, de parler vrai sur les difficultés qu'on peut rencontrer, et de les relativiser finalement en se rendant compte qu'on est tous confrontés aux mêmes difficultés. Donc tout ça, enfin, tu as raison, ça change vraiment le regard que les adultes portent sur les enfants. J'aimerais parler d'un autre sujet aussi sur lequel tu as énormément travaillé, c'est le trauma. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce dont il s'agit et puis quelles peuvent être les conséquences sur l'éducation des enfants lorsque les parents ont subi un trauma, justement ?
Oui, alors c'est vraiment toute la première partie de mon livre, hein, elle porte sur le trauma, cette notion qui est beaucoup trop peu connue en France. Le trauma, c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'organisme, c'est l'impact sur notre organisme, à la fois sur notre corps et sur notre psychisme, d'un événement violent que nous avons subi. Donc le trauma, ça n'est pas la guerre elle-même, c'est ce que la guerre fait à l'intérieur de moi. Ça n'est pas le décès de mon père, c'est ce que le décès de mon père fait à l'intérieur de moi. Donc le traumatisme, c'est une notion qui est finalement à la fois ancienne, mais finalement très nouvelle en psychologie. On le redécouvre et surtout les techniques, les approches qui permettent de soigner le trauma sont encore peu répandues, mais commencent à se développer vraiment de plus en plus. On mesure de plus en plus l'impact du trauma. Il y a eu une étude dont je parle dans le livre qui a complètement révolutionné les consciences et elle montre, en fait, c'est un médecin à la base qui avait une clinique d'obésité et donc il travaillait avec les personnes obèses, il leur permettait de perdre du poids, et puis il y en avait plus de la moitié qui arrêtaient le régime alors même qu'elles perdaient du poids, ils quittaient la clinique et s'en allaient. Pourquoi ? Donc, il s'est vraiment posé la question de comprendre les raisons pour lesquelles les gens, ben, finalement, c'est comme s'ils préféraient rester obèses. Et il a commencé à chercher ce qui se passait. Et puis, un jour, en interviewant une de ses patientes, sa langue a fourché. Et il a dit « Quel poids faisiez-vous lors de votre premier rapport sexuel ? Quel poids faisiez-vous ? » La personne a répondu « Un poids d'enfant. » Donc, il n'a pas compris. Comment c'est possible que ce soit 25 kilos, 30 kilos, je ne sais plus. Et donc, la femme a éclaté en sanglots, elle dit « Oui, c'était avec mon père. » Du coup, Feliti, le docteur Feliti, c'est son nom, s'est dit « Mais ça alors ?» Il était très étonné. Du coup, il s'est dit « Jamais j'ai entendu ça en plus de 20 ans de pratique. » Mais finalement, jamais j'ai posé la question non plus. Donc, il s'est dit « Je vais poser la question aux autres. » Il a posé la question et il a été effaré du nombre de femmes et d'hommes qui avaient subi un trauma sexuel, qui avaient été violées dans leur enfance, qui avaient subi l'inceste souvent ou avaient été violées. Il était tellement étonné de la quantité de violences sexuelles, c'était ce qui était arrivé aussi à Freud à l'époque, il était tellement étonné qu'il ne pouvait pas y croire. Et du coup, il a dit à d'autres « Posez la question aussi à vos patientes, pour qu'on voit si c'est vrai ou si c'est moi qui les influence. » Ben, les autres ont eu autant de résultats. C'était très, très étonnant parce qu'à l'époque, dans les manuels de psychiatrie, il y avait écrit que l'inceste, c'était rarissime. C'était une femme sur 1 million. Bon, on sait aujourd'hui que ce n'est pas tellement le cas et que c'est ce que Feliti a découvert qui est vrai. Mais du coup, il s'est dit, mais c'est pas... Il faut absolument que tout le monde le sache. Il a commencé à le dire. Et il lui est arrivé la même chose qui est arrivée à Freud à son époque, c'est-à-dire que les gens n'ont pas voulu le croire. Il s'est dit, je vais faire une étude. Et il a fait une étude énorme. Il a posé 10 questions. 10 questions qui sont les 10 violences les plus souvent rencontrées par les gens et qui traumatisent. Donc, les 10 traumas les plus courants. Et il a posé les questions. Avant l'âge de 18 ans, avez-vous été frappé ? Est-ce qu'on vous a lancé des objets au visage ? Avez-vous été humilié ? Est-ce qu'on vous a crié dessus ? Bref, il y a les 10 éléments. Et les gens ont répondu. Et là, les résultats sont tombés, mais effroyables. Une personne sur 4 a subi un trauma. Une personne sur 8 a subi 4 traumas. Et nombreuses études ont montré que plus on a subi de traumas, et en tout cas à partir de 4 traumas, on a énormément plus de risques de se suicider, de faire une dépression, d'être anxieux, d'avoir toutes sortes de troubles psychiques, mais toutes sortes aussi de troubles sociaux, relationnels, et toutes sortes de troubles physiques. On sait maintenant que nombre des maladies physiques qui ne sont pas transmissibles, donc ces maladies non transmissibles que sont le diabète, l'hypertension, les cancers, seraient liées, en tout cas, il y a une très forte proportion qui est liée aux traumas subis dans l'enfance. Donc, les traumas subis dans l'enfance ont un impact important sur la santé future. C'est un énorme pavé dans la mare, c'est une chose que nous devons regarder et nous devons mesurer et être attentifs à ne pas traumatiser, mais aussi, pas seulement à ne pas retraumatiser, pas traumatiser et ne pas retraumatiser, mais aussi à être attentifs à fournir à l'enfant les capacités de régulation émotionnelle et sociale dont il a besoin pour pouvoir digérer la violence. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, le traumatisme, ça n'est pas ce qui vous arrive, c'est ce que vous faites de ce qui vous arrive. Et donc, on a pu mesurer que des enfants ayant subi des violences sexuelles, par exemple, Lorsque, à l'école, ils suivent un programme de développement des compétences affectives et sociales, alors l'impact du trauma est beaucoup moindre. Là, on déclenche les forces de résilience. Donc ça, ça nous donne un outil vraiment extrêmement important et ça montre à quel point cette parentalité positive est importante parce que la parentalité positive, c'est principalement fournir de la sécurité et développer les compétences émotionnelles et sociales. Tu as demandé quel impact pour un parent qui a subi un trauma. Les recherches sur le trauma sont de plus en plus importantes et on sait aujourd'hui que le traumatisme, et donc quand je dis le traumatisme, ça peut être un événement subi très fort, un inceste, une guerre, la pauvreté dans l'enfance, donc quelque chose de grave une fois qui nous est arrivé, ou bien une multiplicité de toutes petites choses. Et c'est là que les violences éducatives ordinaires entrent en ligne de compte. Et Gabor Maté, le docteur Gabor Maté, qui est ce grand spécialiste mondial des addictions et du trauma, nous souligne combien les petites violences éducatives ordinaires, chaque fois qu'il y a une déconnexion du parent, chaque fois que l'enfant n'est pas entendu dans son besoin, chaque fois qu'il est mis à distance par le parent, ça fait un mini-traumatisme, mais que toute cette accumulation de mini-traumatismes, eh bien, ça forme un trauma. Et d'ailleurs, dans la liste des 10 traumas, il y a le fait d'être rejeté par ses parents, etc. En fait, c'est lorsque systématiquement on me punit, on me rejette, on m'enferme, eh bien, je ne peux pas construire un sentiment de moi comme étant une bonne personne et reliée à autrui. Je dois m'effacer, je dois me conformer pour être acceptée. Tant qu'on est dans une acceptation conditionnelle, eh bien, c'est traumatisant. D'autre part, on sait aujourd'hui que ce n'est pas seulement les événements négatifs qui vont faire le traumatisme, mais l'absence de positif. C'est-à-dire que s'il n'y a pas assez de sourires, d'accueil, au moment où on vit des émotions fortes, c'est-à-dire si l'enfant est en pleine crise et qu'au moment où il est en pleine crise, donc au moment où il a le plus besoin, s'il ne bénéficie pas à ce moment-là de sourires, d'accueil inconditionnel, d'amour inconditionnel, eh bien, ça forme traumatisme. Et oui, ça c'est nouveau pour la plupart d'entre nous parce que on ne pensait pas comme ça. On ne mesurait pas à quel point c'est important de fournir du carburant affectif, en quelque sorte, de fournir de l'amour au moment où l'enfant dysfonctionne. Parce que aimer son enfant quand il va bien, il est conforme, il sourit, c'est facile. Mais l'aimer quand il rapporte une mauvaise note, quand il tape son frère, quand il est... ça ne veut pas dire qu'on accepte le comportement. Hein. On a bien dit tout à l'heure, zéro tolérance. On n'accepte pas le comportement, mais on accepte l'enfant en dessous de son comportement. Donc, c'est au moment où il nous harcèle pour avoir son ordinateur, c'est le moment où il nous supplie de pouvoir avoir un temps d'écran de plus, c'est dans tous ces moments où il est demandeur et où il est mal, finalement, où il a besoin de nous, que nous devons être là avec notre amour inconditionnel. Donc, voilà, tout ça, ça forme traumatisme. Donc, ça, c'est ce qu'est le trauma. Mais donc, concrètement, la plupart des parents d'aujourd'hui ont été traumatisés. Nous avons subi des traumas. Et la multiplicité des études aujourd'hui, et puis nous avons l'IRM fonctionnel qui nous permet de regarder ce qui se passe dans le cerveau, eh bien oui, il y a un impact, bien sûr, relatif, c'est-à-dire que plus vous avez subi d'événements violents, plus votre cerveau va être abîmé. Mais vraiment, c'est très important de mesurer ça parce que un parent qui est violent envers son enfant, il peut se culpabiliser, mais c'est important qu'il ne se culpabilise pas parce que ça n'est pas de sa faute s'il est violent envers son enfant. C'est juste qu'il n'a pas pu réussir à dompter son cerveau suffisamment parce qu'il a éprouvé une impulsion à attaquer Le stress s'est activé à l'intérieur de lui, il a eu l'impulsion à attaquer l'enfant et il n'a pas pu construire les structures cérébrales qui lui permettent d'inhiber ses réactions. Parce que ces structures cérébrales qui permettent d'inhiber les réactions, ça se construit lorsque on est en pleine crise quand on est enfant et que le parent s'approche, nous accueille avec amour et tendresse, nous sécurise, nous fournit de la sécurité et nous permet de connecter nos zones inhibitrices avec les zones d'impulsion à l'action, avec les zones émotionnelles, avec les zones de stress. Si je peux, quand je suis enfant, construire le lien entre « je suis stressée, j'ai envie d'éclater, mais je suis en sécurité », alors petit à petit, je peux apprendre à inhiber mes comportements. Et du coup, quand je serai adulte et que mon enfant va faire quelque chose qui ne me convient pas, eh bien, j'aurai ces capacités d'inhibition à ma disposition et je peux me mettre à l'écoute de mon enfant. Heureusement, ça peut s'apprendre toute la vie. Notre cerveau est extrêmement plastique. La première chose, comme on le disait tout à l'heure avec Nadège, c'est d'abord de auto-compassion. Je m'apprécie, je m'aime, je calme mon stress, je tempère mon stress à l'intérieur. Je peux faire de la méditation pour m'entraîner à inhiber mes impulsions. J'ai besoin de mesurer que mes impulsions ne sont pas liées à mon enfant. Ce n'est pas parce que j'ai envie de hurler sur mon enfant que c'est lui qui est responsable. Si j'ai envie de hurler sur mon enfant, c'est que le hurlement, il est à l'intérieur de moi depuis des lustres. Il est à l'intérieur de moi depuis mon enfance. Donc, j'ai à pacifier, à guérir, à soigner mon enfance. Remarquez que mes réactions disproportionnées de parents, parce que souvent, ça nous impressionne. On est très tempéré dans la vie sociale et tout d'un coup, face à notre enfant, on se met à hurler. Pourquoi ? C'est bizarre. C'est pas parce que notre enfant nous fait disjoncter. C'est parce que nous avons disjoncté, parce que personne ne nous a appris quand on était petit à réguler toutes ces émotions qui nous habitaient. Est-ce que c'est assez clair ?
Oui, moi j'ai trouvé ça très clair. J'ai trouvé ça passionnant aussi parce que je suis pas du tout informée justement sur tout ce qui touche au trauma. Donc vraiment merci de développer tout ça parce que ça permet de mettre en lumière pas mal de choses et surtout là, l'étude dont tu parlais tout à l'heure avec les 10 questions un peu clés, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont se retrouver aussi dans ces questions-là.
Oui, tout à fait. Et ça remue quand on réalise ça et parce que donc l'étude ça s'appelle ACE. Et ces ACE studies sont vraiment très très répandus maintenant dans le monde anglo-saxon et on fait passer les tests et le test est en ligne, on peut le trouver en français aussi assez facilement, il y a les liens aussi dans mon livre et c'est important tu as parlé d'être informé sur le trauma et c'est ça en fait c'est nous ne sommes pas assez informés sur ce qu'est le trauma, la nature du trauma, ce qui nous impacte, comment ne pas retraumatiser un enfant, parce que c'est ça aussi, un enfant traumatisé, comment il va se comporter ? Il va souvent déborder le cadre, et donc un enfant qui, à l'école, tape les autres, est sans arrêt dans l'insulte, l'ironie, c'est pas par hasard. D'ailleurs, peut-être qu'on pourrait réfléchir et se dire, mais finalement, on nous a dit là récemment, on comprend, et même les chiffres du gouvernement sont qu'un enfant par classe aurait été victime de, c'est même trois enfants par classe auraient été victimes d'inceste. C'est un trauma énorme. Face au trauma, on est souvent déconnecté, on se déconnecte. Du coup, l'enfant qui a été traumatisé, il va pas travailler correctement et il va souvent avoir des comportements, soit il va devenir harceleur, soit il va devenir harcelé parce qu'il va attirer, il est bizarre, il est étrange, il ne réagit pas comme tout le monde. Et donc forcément, donc il n'y a pas que l'inceste. Quand on sait que plus de 80% des parents ont infligé une violence éducative dans la semaine qui a précédé l'enquête, on se dit, tous ces enfants-là qui ont subi une violence éducative, ils sont en classe. Ils ne peuvent pas se concentrer forcément sur ce qui se passe. Et ils vont forcément déborder. Et donc, si, quand un enfant déborde, on le punit, si pire, on l'exclut de la classe, mais ça n'a pas de sens. On n'aide pas l'enfant, on le retraumatise. On est en train de lui dire, t'as été déjà violenté, eh bien, je te violente une deuxième fois, comme ça tu vas comprendre. Mais comprendre quoi? Comprendre que les adultes ne sont pas des êtres à qui on peut faire confiance. C'est inacceptable. On doit s'informer sur le trauma. On doit informer les enseignants, informer toute personne qui est en contact avec les enfants. En fait, on doit informer toute la société. Et c'est ce qui se passe maintenant dans un certain nombre de villes, au niveau d'une ville. Deux femmes à Tarpon Springs, aux États-Unis, discutaient comme ça, ils se sont dit « c'est pas possible, tous ces traumas. Et si on faisait une action? Si, au niveau de notre ville de Tarpon Springs, on changeait les choses ?» Et elles ont lancé un mouvement qui s'appelle Trauma Informed City, donc la ville informée sur le trauma. Et au niveau d'une ville, elles ont commencé à informer tout le monde sur ce qu'est le trauma, sur l'impact du trauma, comment on repère que quelqu'un a été traumatisé, comment fonctionne le développement de l'enfant, comment fonctionne le développement du cerveau. C'est quoi l'attachement? C'est quoi une rupture d'attachement? Qu'est-ce qui fait trauma? Comment ne pas retraumatiser les gens? Et comment travailler ensemble? Et cette politique a donné ses fruits et très rapidement, d'autres villes se sont engagées là-dedans. La ville de Philadelphie en 2011. Philadelphie, c'est quand même une ville qui était assez pauvre et assez violente. Très difficile d'y vivre. Personne ne voulait y aller pour y vivre. Et maintenant, c'est le contraire. Les gens aiment vivre à Philadelphie. Ils ont fermé une prison récemment. Ça marche. Partout dans le monde, il y a des villes qui se dressent. Compassionate Leeds, la ville de Leeds qui se dit maintenant compassionnée. La ville sans trauma. Et donc, au niveau d'une ville, on peut changer les choses. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, Mélodie, quand on est au parc, on est dehors et qu'on est avec notre enfant et qu'on le laisse faire des choses que les autres ne laissent pas faire, tout de suite, il va y avoir des gens autoritaires, comme notre pays est encore majoritairement autoritaire et dans les violences éducatives ordinaires, ne reconnaissant pas ce qui est les violences, en fait, ce qui fait violence à un enfant et ce qui ne lui fait pas violence. Du coup, on reçoit toutes sortes de commentaires en permanence, qui d'une part nous retraumatise, et on est sensible à ces commentaires, parce que c'est ça qui est dingue, c'est que nous soyons si sensibles au regard des autres. C'est normal, nous sommes une espèce sociale, donc on est sensible au regard des autres, mais quand même, on est particulièrement sensible parce que nos parents nous ont beaucoup jugés. Mais si on vivait dans une autre société, si la société dans son ensemble changeait de regard sur les enfants, si la société dans un ensemble, au niveau d'une ville, changeait le regard sur l'enfant et mesurait ce que c'est que le trauma. C'est ça, le mouvement Trauma Informed. Et donc, un petit groupe, on a lancé ça à Marseille. Je suis à l'initiative avec trois autres personnes à Marseille du mouvement Marseille, ville non violente. La ville de Montpellier lance Montpellier Stop Trauma. La ville de La Rochelle aussi commence. Et donc, il y a un mouvement de ville qui s'informe sur le trauma et qui désire vraiment s'engager sur cette voie. Parce que le trauma, c'est vraiment un axe sur lequel on peut changer. Quand on dit « il y a trop de violence dans le monde » ou « les parents sont violents », tout de suite, il y a du jugement et on se sent coupable d'être violent. Voir les choses sous l'angle du trauma, c'est autre chose. Du coup, on se dit « mais non, c'est pas que je suis violent, c'est que j'ai été traumatisé. Mon cerveau a été abîmé. Mon amygdale est devenue hyper réactive. Je n'ai pas pu développer suffisamment les aires frontales qui me permettent de réguler mes émotions. C'est parce que mon cerveau a été abîmé dans mon enfance. Stop, je ne veux plus. Je veux changer, je veux guérir mon propre cerveau et je ne veux plus faire mal aux autres. Et du coup, ben, en regardant autour de moi, ben, je vais voir les enfants, je vais les voir comme étant possiblement traumatisés. Pas forcément gravement traumatisés, mais au lieu de me dire « Mais qu'est-ce qui m'a fichu un gamin pareil ?» ou « Pourquoi tu fais comme ci ? Qu'est-ce que tu fais ?» au lieu d'avoir cette attitude de jugement sur le comportement de l'enfant et sur l'enfant, je change de regard et je prends une attitude d'accueil. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu fasses ça? Que ce soit parce que l'enfant traîne le matin à mettre ses chaussures, que ce soit parce qu'il donne un coup de ballon de foot dans le salon, c'est pas approprié, que ce soit parce qu'il nous donne des coups à nous, que ce soit il essaye de nous donner des coups ou il pique la balançoire, ou... bref. Tout comportement débordant, au lieu de juger le comportement, je me place en position d'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, il n'y a pas toujours trauma, hein, bien sûr. Tout ce qui est vie dans la vie n'est pas trauma, mais toutes les petites choses du quotidien, c'est une attitude, en fait. C'est au lieu de juger, j'accueille et je regarde autrement. Et on tisse un lien de sécurité et compassion. Et ma première préoccupation dans une ville informée sur le trauma, dès que je rencontre quelqu'un, c'est de fournir de la sécurité à cette personne. Que ce soit mon enfant, le prof de mon enfant, l'infirmière, le médecin, je mets l'autre en sécurité. Pour ça, j'ai besoin de me sentir en sécurité. Donc, je m'occupe de moi d'abord. Autocompassion et compassion envers autrui.
Oui, et on voit ce qui est intéressant dans ce que tu partages là, c'est qu'à nouveau, on est dans une démarche positive où on ne dit pas c'est une fatalité, c'est comme ça, voilà, on a subi un trauma et c'est une catastrophe pour toute la vie, on peut agir dessus. Tu as rappelé voilà, des petits éléments qui font qu'on va pouvoir soigner ça et tout en enseignant oui. ensuite des compétences à nos enfants. Donc on peut changer, on peut évoluer et on voit que c'est une démarche différente de... Bah, par exemple, un adulte qui va punir un enfant, il le punit à 2 ans, mais il le punit à 12 ans. On voit qu'il s'est passé 10 ans entre les deux, qu'on a répété, et c'est quelque chose qui est assez spécifique à l'éducation, je trouve. Ça ne marche pas, mais on recommence, et on recommence, et on recommence. Mais là, on dit stop, on voit ça ne fonctionne pas. Ben, pourquoi? Tu l'as expliqué. Et puis, au contraire, on va venir à la racine du problème, et puis enseigner, donner des compétences, et faire en sorte de développer ce pouvoir personnel, cette compassion. Donc, merci de nous partager ça, et de nous fournir des outils vraiment pour voir l'enfant autrement, pour voir aussi nos difficultés de parents autrement. On n'est pas là pour juger, encore une fois, mais au contraire pour informer et partager voilà, des choses qui seront utiles.
C'est ça. Et puis, il y a une chose aussi qui est importante à partager maintenant, c'est que la plupart des gens croient que guérir du trauma, c'est super compliqué et ça prend des années de psychothérapie. En fait, non. Aujourd'hui, il y a une multitude de techniques extrêmement efficaces et rapides qui, en quelques séances, permettent de se libérer du trauma. Déjà, les 2 jours, 3 jours de grammaire des émotions, le stage que j'ai mis au point, suffisent souvent pour arrêter cette impulsion à frapper et déjà vraiment enraciner une bonne guérison à l'intérieur de soi. Mais il y a la méthode Trauma Releasing Exercise, il y a la méthode EMDR, il y a Mosaïque, il y a Somatic Experiencing, il y a toutes sortes de méthodes efficaces et rapides. Non, ça ne prend pas des années. Et donc, soyons doux avec nous-mêmes et allons consulter des professionnels compétents. Parce que c'est dommage de garder des peurs toute une vie, de garder des traumas toute une vie, alors que ça se soigne facilement et parfois sans même avoir besoin de parler de ce qu'on a vécu. Souvent, parler de ce qu'on a vécu retraumatise, et c'est pour ça que nombre de psychothérapies échouaient avant, prenaient des tas de temps et tout, parce que le psy demandait « racontez-moi ce qui vous est arrivé ». Et on racontait. Et on racontait. Et chaque fois, ça nous faisait une émotion. Et chaque fois, on se retraumatisait, en fait. Et donc ça, on sait que ce n'est pas une bonne voie aujourd'hui.
Donc voilà, la psychologie a beaucoup, beaucoup évolué, la psychothérapie a beaucoup évolué, et donc allons rencontrer des professionnels compétents qui nous aident rapidement à guérir nos traumas.
Donc là, on peut trouver plein de pistes et développer davantage ce que tu viens de nous dire donc dans ton livre « Éduquer », donc publié aux éditions Robert Laffont. On voit qu'il y a plusieurs parties, il y en a 9, je crois, où tu parles de l'enfance, donc de cette période sensible justement qu'est l'enfance. Il y a toute une partie sur le trauma dont tu viens de nous parler, du fait de l'importance d'exercer cette autorité-là, et tu fais bien la différence avec le laxisme. L'importance du cadre aussi. Bref, voilà, je pense que ça fait déjà une bonne base pour mieux comprendre justement comment accompagner au mieux nos enfants dans leur développement, tout en prenant en compte nos propres besoins, en prenant soin de nous aussi pour y parvenir. Vraiment, un grand merci à toi, Isabelle, pour tout ce que tu nous partages.
Merci, Mélodie. Merci, Nadège.
Merci beaucoup.
Merci à tous et toutes.
Et c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il aura été inspirant pour nous permettre de changer de regard sur nos enfants, les accompagner au quotidien, même dans leurs comportements débordants devant lesquels on peut se sentir parfois démunis. L'éducation dite positive, c'est une éducation qui accompagne, qui guide les enfants, mais qui prend aussi en considération les besoins des parents, parce que c'est important de se sentir soi-même bien dans ses baskets pour accompagner au mieux nos enfants. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, ça nous fait un super coup de pouce. Et puis vous pouvez aussi partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous envoyer vos messages, vos questions, on y répondra avec plaisir avec Nadège. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt !